on dirait, ça fait beaucoup d'idées fausses, comment ça fait, enfin, comment ça se fait qu'on ne sait pas? Eh oui, c'est le propre des idées fausses de se diffuser très facilement parce qu'elles sont très simples à comprendre. Et une fois qu'elles ont été comprises, malheureusement, elles sont solidement ancrées et c'est dur d'y revenir. Mais, et puis aussi, des idées fausses qu'on nourrit avec le temps, je vous disais tout à l'heure, c'est avec le recul qu'on arrive à voir que les idées sont fausses. Mais il faut voir que ce type d'idées fausses est très prégnant dans l'opinion, évidemment, dans le monde politique, et a structuré des choix fiscaux. Et quels ont été les choix fiscaux de ces 15 dernières années? Alors, ce n'est pas que sur la base des idées fausses, en réalité, les idées fausses ont été véhiculées par une vraie idéologie, hein, que je qualifie donc de néolibérale, mais qui visait à dire qu'il fallait moins d'action publique, moins de correction des inégalités, et donc, annoncer ça frontalement à une opinion, c'est sûr de fâcher, mais par contre, en disant on va vous rendre de l'argent, et puis vous rendez compte, on impose plus, et puis les riches vont partir, c'est déjà plus astucieux pour faire passer un certain nombre de mesures fiscales. Et puis, il y avait aussi un contexte qui est réel, c'est celui de la concurrence fiscale et sociale, qui existe vraiment, qui a été souvent dramatisé, mais il existe réellement, c'est un fait qu'aujourd'hui, notamment celle de l'Union européenne, se poserait la question, mais on y reviendra, de l'harmonisation fiscale. Enfin bref, quels ont été les choix fiscaux et quelles ont été les conséquences de ces choix fiscaux? Globalement, on a baissé les impôts les plus justes, on va dire comme ça, les impôts directs, ça va être directement à vous, c'est-à-dire ceux qui sont susceptibles de tenir vraiment compte de votre situation. On a baissé l'impôt sur le revenu, qui était celui, qui était l'impôt progressif, vous faites votre déclaration, j'espère, au mois de mai, c'est le lien citoyen entre un individu et la société soumis par l'impôt, notamment par l'impôt direct. Il y a encore une idée fausse consistant à dire que l'impôt sur le revenu est trop élevé, alors qu'on a l'impôt sur le revenu le plus faible d'Europe. Mais toujours est-il que l'impôt sur le revenu est l'impôt le plus connu, parce qu'il s'adresse directement à vous, vous faites une déclaration, même quand vous n'êtes pas imposable, etc. Et cet impôt sur le revenu était en théorie le plus juste parce qu'il imposait plus lourdement les plus riches. Eh bien, on a baissé le taux, on a notamment baissé le taux des tranches les plus élevées, et ça a eu plusieurs effets. Le premier effet, c'est que déjà, ça a dégradé les finances publiques. Parce que quand vous baissez un impôt, vous baissez une recette, vous vous privez de recettes. Quand vous baissez un impôt une année, eh bien, ce manque à gagner se répercute tous les ans. Parce que si vous aviez laissé votre impôt, tous les ans, vous auriez engrangé des sous. Et on a fait le calcul suivant, c'est qu'on a baissé massivement les impôts entre 2000 et 2016. Mais si on avait maintenu l'impôt sur le revenu de 99, qui n'était déjà pas, pas spécialement confiscatoire, contrairement à ce qu'on pouvait croire. Mais bon, si on avait laissé cet impôt, s'il n'y avait eu aucune baisse, l'État aurait engrangé tous les ans des sous. Sur 11 ans, ça fait 144 milliards d'euros. Ces 144 milliards d'euros sont mécaniquement venus alimenter la dette. Sur 1 800 milliards d'euros, enfin 1 700, 1 800 milliards d'euros, vous avez déjà 144 en brut, ce qui pourrait affiner, mais c'est 144, qui proviennent probablement, enfin pas probablement, c'est des chiffres des lois de finances, de l'impôt sur le revenu. Ça fait beaucoup. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est que les plus riches ont payé moins d'impôts. Comme ils ont payé moins d'impôts, eux, ils ont eu satisfaction dans leurs revendications, ils ont plus de pouvoir d'achat. En réalité, pas de pouvoir d'achat, mais du pouvoir de placement. Je paye 120, on me rabaisse mon impôt à 100, là j'ai 20 de disponibles. Qu'est-ce que je vais faire de ces 20 lorsque je suis déjà riche? Je ne vais pas consommer beaucoup plus, je vais les placer. Ils vont générer de revenus. Ces revenus-là, ils vont être moins taxés, moins imposés, parce qu'on a baissé l'impôt et qu'on va continuer à le baisser encore. Et donc, je vais avoir de plus en plus de revenus disponibles du fait des baisses d'impôts que je vais placer, qui vont procurer des revenus. Et ça veut dire qu'il y a une espèce d'effet boule de neige qui alimente la dynamique des inégalités. Et quand on regarde là encore les chiffres, les grands bénéficiaires des baisses de l'impôt sur le revenu, c'est les 5% des contribuables les plus riches. Encore, comme au monde, c'est massivement concentré sur le 1%. Il y avait déjà des inégalités importantes, commençaient déjà au début des années 2000 à se développer, pas entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, mais vraiment au bénéfice du 1% les plus riches, qui ont été donc massivement bénéficiaires des baisses d'impôts. Bien, c'est en fait, maintenant l'INSEE l'a établi, c'est que la fiscalité, ça n'a pas été la seule raison, il y a eu tout le développement des rémunérations d'activités d'option, etc. D'accord. Mais n'empêche que la fiscalité a dégagé des marges par les baisses supplémentaires pour ces catégories de contribuables, qui auraient été bien bêtes de ne pas les prendre, hein, c'est la vie, hein. Donc ils les ont pris, ils les ont placés. Et donc ça a développé les inégalités. Et ce n'est pas un hasard si toutes les études montrent aujourd'hui que le 1% des Français les plus riches a vu son revenu augmenter, je ne sais pas de bêtises, entre 1998 et 2007, de 19%, et de 0,1% des Français les plus riches. 5%, là où 90% de la population, vous voyez, sont revenus au manteau de 4%. La fiscalité a joué un rôle. Ça n'a pas été l'unique cause, mais ça a joué un rôle. Donc, coût budgétaire, inégalité en hausse, et au passage, pas d'impact économique. Parce qu'il faut le dire, le pari qui avait été fait par la gauche comme par la droite, ça avait été de dire on va rendre du pouvoir d'achat, ils vont le placer et l'investir. Et en fait, dans les placements, on avait oublié qu'il y avait la spéculation, et ça n'a pas eu d'effet économique avéré, parce que moi je vous fiche mon billet que si ça avait eu un impact économique, Bercy aurait de longue date sorti des rapports pour vous dire regardez, c'est très bien les baisses d'impôts, on pourrait tant générer tant de points de croissance, etc., etc. Or, ça n'a pas été le cas. Vous comprenez que quand on les a interpellés, on n'a pas eu de réponse. Donc voilà, on a baissé l'impôt sur le revenu, on n'a pas fait que baisser l'impôt sur le revenu, on a baissé aussi les impôts sur le patrimoine. Comment on a baissé les impôts sur le patrimoine? On les a baissés en plusieurs temps. Déjà, on a relevé les abattements. Vous savez que jusqu'en 2004, un père pouvait donner à chacun de ses enfants 46 000 euros tous les 10 ans. Bon. Tout le monde ne pouvait pas donner 46 000 euros. À l'époque, il y avait environ 130 000 donations qui donnaient lieu au paiement de l'impôt. Ça veut dire que sur 36 millions de foyers fiscaux, il n'y avait que 130 000 qui payaient de l'impôt sur les donations. Sarkozy, en 2005, a relevé de 46 000 à 50 000 euros et a dit que ça peut être tous les 6 ans. Ça veut dire qu'il y a eu une accélération de la transmission de patrimoine tout au long d'une vie des personnes qui avaient du patrimoine à transmettre. Et en 2007, est arrivé la fameuse loi TEPA, le paquet fiscal, et il a relevé les abattements à 150 000 euros. Ça veut dire que une famille de deux parents, deux enfants, c'est 600 000 euros qui, en franchise d'impôt, passent d'une génération à l'autre. Il fallait juste avoir les moyens pour les transmettre. Donc tout le monde n'était pas concerné. Donc, on a baissé massivement les impôts sur le patrimoine, et notamment sur la transmission des patrimoines, et ça a joué pour les donations et aussi pour les successions, mais ça a vraiment eu un impact sur les donations. Et puis, ben, tout ça, ça a procuré une économie d'impôts. L'économie d'impôts, ça veut dire aussi coût budgétaire, et on retrouve le cycle de tout à l'heure. On a aussi baissé, là, tout récemment, l'impôt de solidarité sur la fortune, qui était sans doute imparfait parce qu'il y avait beaucoup de niches fiscales, mais on a baissé, et ça va coûter 2 milliards d'euros en moins également. Et puis on a baissé à l'impôt sur le revenu, comme à l'ISF, comme dans malheureusement pour l'impôt, on a baissé catégoriellement les impôts grâce au développement des niches fiscales, les crédits d'impôt, les réductions d'impôt, les déductions en base, etc., etc. Alors les niches fiscales, je m'arrête un instant là-dessus, c'est une formule de pour baisser les impôts, très utilisée. Évidemment, il y a beaucoup de lobbyistes, de clientélisme derrière, et puis ça permet, surtout en termes de gouvernance, au gouvernement de dire, plutôt que de donner des subventions, je vais renoncer à une recette. Et puis comme ça, tout de suite, dans ma loi, j'aurai ma dépense fiscale, hein, sur l'outre-mer, le mécénat, tout tripoté au cours des années 2000. Et chaque ministre a voulu sa niche fiscale. Et ça a rendu l'impôt très compliqué, parce que ça veut dire que le volume, pas simplement du Code général des impôts, mais enfin de la loi fiscale, est venue parce que toutes les réductions, etc., ne sont pas sorties de conditions. Elle bénéficie pas à tout le monde, parce que c'est une inflation de textes législatifs. Et du coup, tout ça aussi crée du manque à gagner. Et ce manque à gagner, c'est assez intéressant, on s'est aperçu qu'une partie a été camouflée. Parce que les niches fiscales, au bout d'un moment, dans la loi de finances, ça se voit. Ça se voit que le coût augmente. C'était 50 milliards d'euros au début des années 2000, et puis on était arrivé à 75 milliards d'euros au milieu des années 2000. Voilà. Et puis depuis, on dit que c'est 75 milliards d'euros, ce qui est déjà assez. Important, hein, parce que comparé à l'impôt sur le revenu qui rapporte 50 milliards d'euros, vous voyez, si on a 75 000 euros de manque à gagner des niches fiscales à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés, la TVA, l'ISF, etc., ça fait beaucoup. Et en réalité, c'est le double. Comment c'est possible? Parce que certaines niches fiscales, notamment en matière d'impôt sur les sociétés, ne sont pas répertoriées dans le loi de finances. Elles sont là, puis elles sont en apesanteur, elles sont utilisées, hein, je vous rassure, mais elles ne sont pas inscrites dans le loi de finances. Et c'est la Cour des comptes qui a. Y compris nous, fiscalistes, on ne savait pas trop, on savait qu'il y en avait quelques-unes qui traînaient de ci, de là, mais comme il n'y avait pas d'évaluation, on n'arrivait pas nous-mêmes à évaluer ou à contrôler l'évaluation qui était faite. Et c'est la Cour des comptes, au début d'année, qui a dit, bon ben voilà, il y a des niches fiscales qui sont dans la loi de finances, d'autres qui ne sont pas, le total c'est 145 milliards d'euros. Donc, quand même un vrai choc. Le problème, c'est que dans ces niches fiscales, quand on plonge dans le détail, vous avez beaucoup de choses. Vous avez des niches fiscales qui concernent la fiscalité de l'épargne, les placements de commun de placement d'innovation, etc., plutôt réservés à ceux qui ont une capacité d'épargne, mais vous avez aussi des dispositifs dont on bénéficie, nous tous, hein, l'exonération des intérêts des livrets A, par exemple. Hein. peu près 9 Français sur 10 qui ont un aigu grave, je suppose qu'il y en a plusieurs dans la salle. Certes, les intérêts sur quelques centaines d'euros ou 1000 euros, ce n'est pas grand-chose. Moi, c'est une exonération, c'est considéré comme une niche fiscale. Et donc, le gouvernement actuel a bien compris qu'il pouvait surfer sur le thème des niches fiscales pour faire passer des mesures, on va dire, discutables. Exemple, plutôt que de s'attaquer aux niches fiscales qui permettaient la défiscalisation à outrance et qui permettaient aux Français les plus riches de payer moins d'impôts, il a, par exemple, supprimé une demi-part pour les parents isolés. Peut-être certains d'entre vous vont en bénéficier. Il y avait 4 millions de personnes qui en bénéficiaient en France. La moitié n'en bénéficiera plus. Et c'est de fait une augmentation d'impôts, en plus totalement justifiée, parce que ce n'était pas une niche. Les contribuables ne choisissaient pas cette niche fiscale. Simplement, dans le mode de calcul, eh bien, ils en bénéficiaient. Voilà, tant mieux. Pareil, sous le couvert de lutte contre la niche fiscale, le gouvernement, je suis déjà trop bon dans les journées plus, mais a rendu imposable la moitié des indemnités journalières. Alors que ce n'était pas une niche fiscale au sens où, là encore, on ne choisissait pas d'être malade, on ne choisissait pas de nous percevoir des indemnités journalières, on ne choisissait pas d'être exonéré sur les indemnités journalières. Donc, il faut faire attention à ce débat sur les niches fiscales, il y a des vrais enjeux, il faut pas, on ne peut pas dire tout d'un coup de la baguette magique, on ne supprime plus. Mais on voit bien derrière ça que certains impôts ont été baissés, tandis que d'autres ont plutôt tendance à augmenter, les impôts, les droits sur les alcools, les tabacs, en ce moment, les droits sur la consommation, les droits indirects, qui ne vous connaissent pas, qui connaissent que le montant de la dépense, et de la sorte, on a eu un basculement, c'est-à-dire que la charge fiscale, qui n'était déjà pas très équitablement répartie, l'est encore moins, parce que force est de constater que mieux vaut une grande entreprise moins riche en France sur le plan de la fiscalité que dans les classes moyennes ou dans les PME. Ça, c'est le paysage donc actuel, c'est une réalité qu'on observe aussi dans d'autres pays, mais ce qu'on ne dit pas là encore, c'est qu'on a des marges de manœuvre pour une réforme fiscale nationale. Je vais prendre juste un exemple. Si on voulait réformer l'impôt sur le revenu, on pourrait très bien, parce que comme nous avons l'impôt sur le revenu le plus faible d'Europe, eh bien on pourrait le réévaluer légèrement. De la même manière, on a des marges de manœuvre en matière d'impôt sur les sociétés, parce que les autres pays, notamment on a baissé la taxe professionnelle pour les entreprises, etc., donc les autres pays imposent relativement plus que les déficits que la France, parce que la France a un taux apparemment élevé, mais il y a un certain nombre de niches fiscales, d'exonération, de régimes particuliers, qui font que notamment les grands groupes payent très peu d'impôts. Vous avez tous entendu parler de Total qui ne payait pas d'impôts en France, alors que le boucher du pain va payer, une capitale SARL du pain va payer 30% sur son bénéfice. C'est quelque chose de proprement enfin, scandaleux, immoral, pas simplement, puis en plus inefficace sur le plan économique, parce que Total pourrait supporter quelques milliards d'euros d'impôts sans mettre en danger sa situation financière. Et ça dégagerait là aussi des ressources, y compris on pourrait même rééquilibrer l'impôt sur les sociétés au bénéfice des PME. Voilà.